intervenant, donc c'est Cyril, c'est ça, Cyril Chopin, ouais. Qui nous vient donc de l'Académie de Rouen, et que je laisse se présenter plus avant, avant de nous faire sa présentation.
Bonjour, ouais, c'est bon. Bonjour, Cyril Chopin, collège Léo Lagrange au Havre. Et puis par ailleurs membre du pôle de compétences disciplinaires TIS et Histoire Géographie de l'Académie de Rouen. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un itinéraire de découverte que j'ai fait, que nous avons fait avec un collègue de SVT au cours du premier semestre, de septembre à décembre de l'année dernière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un itinéraire de découverte, c'est un dispositif où il y a co-animation de professeurs. C'est un effectif d'élèves qui n'est pas forcément un effectif classe. En l'occurrence, ce n'était pas un effectif classe. Et puis, à l'intérieur de quelques grandes thématiques, il faut qu'on trouve des passerelles entre nos disciplines. En l'occurrence, on a pris le thème du développement durable qui est permis depuis, deux ou trois ans. Et on s'est intéressé en lien avec une actualité académique, puisque je ne sais pas si vous savez, mais l'émission Thalassa a lancé le tour du monde de Thalassa, auquel a été associée l'éducation nationale et notre académie, puisque le Havre a été point de départ de ce tour du monde. Donc IDD, c'est un travail sur de nombreuses séances, en l'occurrence une dizaine de séances, et il doit y avoir production à la fin. La concordance avec les programmes. Alors nous, on s'est axé plutôt sur une thématique géographique. Le professeur de SVT qui travaillait avec moi était un nouvel arrivant à la fois dans l'éducation nationale et dans l'établissement. Il y a vu surtout un intérêt sur la démarche scientifique qui lui était possible de mettre en œuvre. C'est là-dessus qu'on s'est surtout retrouvé. Alors, les grands objectifs de notre itinéraire de découverte sont au nombre de deux. D'abord, il s'agissait de sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable, mais aussi de les préparer d'une certaine manière à une pratique qui devient de plus en plus celle que nous vivons, c'est celle de la démocratie participative. Rien qu'au Havre, par exemple, ça fait déjà deux commissions locales du débat public qui ont eu lieu. La première dans les années 90, en l'occurrence pour Port 2000, et puis l'année dernière pour le terminal méthanier d'Antifer. Donc il n'y a pas seulement les débats publics municipaux ou d'intercommunalité, il y a aussi les débats publics d'aménagement plus grande envergure du territoire. Le déroulement de l'itinéraire de découverte en trois grandes étapes, déséquilibrées dans le temps. La première séance est consacrée à l'élaboration de la problématique, les trois suivantes à une étude de cas, et enfin les six dernières séances sont consacrées à la mise en projet des élèves. Alors comment ça se passe concrètement? La première séance, on confronte les élèves à deux points de vue. D'abord, on montre à travers deux fiches que Port 2000, c'est autant un outil de développement économique qu'un aménagement qui a des impacts sur l'environnement. De cette confrontation entre les deux points de vue, on en tire une interrogation qui amène les élèves à élaborer eux-mêmes la problématique. En fait, le but du jeu, c'est que on essaie d'embarquer les élèves dans un projet de manière à les faire durer le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que on l'a déjà évoqué ce matin, si je ne m'abuse, conserver la motivation des élèves sur un temps assez long, c'est assez difficile. L'étude de cas, elle s'organise autour de deux aspects. C'est l'émission Thalassa sur le transport de conteneurs du port de Gennevilliers à Port 2000, et sur un spot publicitaire qui vante les mérites du port autonome de Paris. Je pense qu'on a le temps de voir. J'ai raccourci considérablement les temps de... Les conteneurs sont emmenés par barge fluviale. On voit passer la barge dans le canal qui mène à Port-de-Mille. Ils sont déchargés. Donc ça, c'est pour ancrer. Ça, c'est pour ancrer dans le contexte local. Et puis après, la publicité, elle met en avant le caractère à la fois économique et puis écologique du port autonome de Paris, dans la mesure où une barge fluviale, c'est 250 camions économisés. Donc de cette... De ces deux documents, on en vient à poser, les élèves en viennent à poser un problème, à savoir, bon, est-ce que la publicité est pertinente, et ils sont donc amenés à vérifier par différentes hypothèses, en fonction des différents modes de transport, cette publicité. Le premier cas est vu avec les élèves, là, pour la prise en main de Google Earth. En fait, on étudie les trajets. En fonction des trajets, ils calculent les émissions de dioxyde de carbone. Et à la fin, on arrive à des résultats. À des résultats qui nous servent à l'étape suivante, à savoir confronter ces résultats avec la part effectivement à la part de conteneurs effectivement transportés par barge fluviale, qui est minime. En gros, c'est 80% la route, 10% pour le rail et pour la voie fluviale. On arrive donc à une, ce qu'on pourrait appeler une situation problème, et c'est ce qui provoque la mise en projet des élèves, puisque à ce moment-là, ils doivent proposer un aménagement qui permettrait de réduire ce problème, ou alors de proposer une amélioration à l'existant. Oui. Voici l'un des projets des élèves. Alors c'est là où l'utilisation du SIG intervient. En l'occurrence, il s'agit d'un projet d'écluse fluviale qui se trouve ici. Alors ce qui est assez bluffant, c'est que pour des élèves qui n'ont jamais mis le nez dans les projets d'aménagement futur de Port-de-Mille ou dans les informations que publie régulièrement le port autonome du Havre, c'est quasiment une anticipation de ce qui est prévu dans le schéma directeur Donc, voilà. Dans le schéma directeur de Porte du Mille. Alors là, on va ouvrir le SIG. Alors, ce système d'information géographique a été élaboré dans le cadre du projet d'Aquigny qui associait les académies de d'Amiens, Rouen et puis le sud-est de l'Angleterre dans le cadre d'un projet Interreg. Alors ici, ce que font les élèves, c'est quasiment tout. On a la chance de disposer d'un tableau blanc interactif, d'une co-animation dans le cadre des IDD. Donc en fait, on fait quasiment du sur-mesure. Quand un groupe d'élèves en est arrivé à la formalisation de son projet, on lui explique comment fonctionne le SIG. Après, charge à lui de mettre en œuvre son projet. Donc, je ne vous présente pas le système d'information géographique, vous savez comment ça fonctionne. On pourra revenir dessus si vous voulez. Alors, quels sont, à notre sens, les atouts d'un tel outil ? D'abord, on travaille sur du concret. Enfin, pour les élèves, c'est le retour qu'on en a. Quand même une grosse limite sur le concret, c'est autant pour eux c'est stimulant, autant ça demande de brasser des contraintes qui sont beaucoup plus importantes que dans le cadre d'une étude où on aurait restreint certains paramètres. Je dirais que c'est à la fois stimulant, mais parfois ça demande d'expliquer beaucoup plus de choses que si on était sur une étude plus limitée. D'autre part, ça nous permet de travailler bien sûr à plusieurs échelles. Évidemment, en faisant varier le zoom du SIG, on peut prendre en compte différentes échelles et avoir une intervention des élèves beaucoup plus intéressante sur l'espace et donc proposer un aménagement plus pertinent. Enfin, et c'est ce qui moi me semble le plus intéressant, surtout dans le cadre du collège et pour des élèves de cet âge-là, c'est que ça donne le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut faire une manipulation, se tromper, revenir, réessayer, dessiner, se tromper, corriger, effacer. C'est franchement moi ce que j'ai retenu de vraiment très très intéressant, c'est que pour peu qu'on laisse du temps, et on en a quand même un petit peu dans le cadre de ce dispositif, eh bien, les élèves arrivent quand même à progresser. Donc, pour moi, c'est les élèves font à ce moment-là l'expérience de l'espace en le manipulant et surtout à travers leurs erreurs. Alors, on peut se poser la question... Dans quelle mesure est-ce que faire ceci, ça rapproche les élèves de leur future citoyenneté ? Alors, je pense que le parallèle est un peu osé, mais dans la manière dont ils font leur projet, on se rapproche assez de ce qu'on peut vivre en tant que citoyen quand on est confronté à ce type d'aménagement. Donc, je vais brièvement à gauche faire le bilan de ce qu'on peut être amené à vivre en tant que citoyen dans le cadre de la citoyenneté participative et ce qu'ont vécu les élèves dans le cadre de notre IDD. Donc, le projet est élaboré par des décideurs publics, ensuite il y a une phase de concertation publique et ensuite un amendement éventuel du projet initialement proposé aux citoyens. Dans le cadre de l'itinéraire de découverte, les élèves élaborent leur projet, ensuite il est soumis aux remarques de leurs camarades, mais aussi au regard des deux professeurs, et ensuite leur projet est amendé. Bon, c'est pas tout à fait un décalque de ce qu'ils connaîtront par la suite, mais en tout cas, à mon avis, on s'en rapproche assez. Enfin, pour finir, il faut insister sur, à mon avis, sur le fait que travailler dans une démarche de projet avec des élèves qui sont habitués généralement à vous prenez le manuel et vous observez la carte temps, page temps, c'est très déstabilisant L'itinéraire de découverte permet de pallier cette difficulté dans la mesure où on a plus de temps, mais les élèves ont quand même du mal à passer à une position d'acteur et non pas à une position plutôt passive telle qu'ils la subissent parfois en cours. Là, on leur demande de se mettre en projet, et se mettre en projet, c'est pas un acte et une posture très commune, enfin très courante pour les élèves. Enfin, une fois ce temps passé, c'est quand même très intéressant. Est-ce que ça peut être généralisé à nos heures de cours? Alors, j'étais parti très confiant. J'ai appliqué plus ou moins cette démarche à la partie du cours de quatrième qui est consacré à l'aménagement du territoire. Les élèves étaient très partants. Malheureusement, le temps qui est imparti, 2-3 heures, même en rajoutant une, est difficile. Et enfin, c'est difficile à faire tenir une telle démarche. Alors peut-être que l'année prochaine, je serai moins ambitieux et que j'adapterai un peu mieux les choses. Mais en tout cas, il y a quand même une transposition difficile de l'itinéraire de découverte à la classe, enfin au cours disciplinaire. Puis il y a eu une grosse interrogation à laquelle on a été confronté, c'est celle de l'évaluation, parce que mettre en projet un élève ou un groupe d'élèves, c'est difficile à noter. Moi, je n'ai pas de motivomètre. Et puis autre chose, c'est que on en vient là à évaluer aussi des prises de position citoyennes, et un éthicomètre, je n'ai pas plus qu'un motivomètre. Voilà, donc on est resté très très large dans notre évaluation. On a évalué sur tout ce qui était positif, mais il y a quand même encore quelque chose qui, enfin, ça, en tout cas, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, il y a un appel. Si quelqu'un a un itinéraire ou un motivomètre dans sa poche, je crois que vous avez un client. Caroline, tu peux.
Pour moi, ce problème-là, il se pose aussi dans mes copies. Quand je note, on note pas une réponse bonne ou une réponse fausse. Donc, je pense que c'est en amont, il faut se poser la question de ce qu'on attend des élèves. Et puis dans le travail sur la boucle d'essai que j'avais fait, en fait, dans mes critères d'évaluation, il y a l'implication, il y a la logique du raisonnement, il y a l'argumentation, puisqu'ils présentent à l'oral à leurs camarades, ils doivent argumenter sur leur choix, donc il y a la qualité de l'argumentation. Les prises de position, elles correspondent ou pas à à une réalité. Enfin, je pense qu'il y a moyen quand même d'avoir une grille de critères qui permet d'évaluer, même si on ne donne pas une note, de dire, ben voilà, là, quand même, tu aurais pu t'impliquer davantage. Là, tu as choisi le bon outil, par exemple. Dans le choix des outils, tu dis, ils ont tout fait. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient une problématique, ils ont dû choisir la façon dont ils allaient vérifier les hypothèses. Ben, ce choix-là, il est évaluable. Donc, ça ne donne pas une note, forcément, mais... C'est plus difficile, disons, que d'évaluer une copie, peut-être, mais...
De fait, ça n'a pas donné une note. Ça, c'est... Ouais, donc, mais...
Qu'importe.
Bah, enfin, globalement, moi, j'en ressors très content. Hein. Enfin, c'est sûr que ce qu'on fait à la majeure partie des élèves, c'était très bien. Après... pour évaluer plus finement, oui, mais ça me, j'ai encore
beaucoup. Je t'enverrai ma grille d'évaluation qui correspond pas du tout. Enfin, c'est pas.
Oui, non, mais je comprends bien.
Ça colle pas, mais ça donne des idées.
Autant l'argumentation, la problématisation. Là, je vois bien, mais l'implication. Tu as cité moi l'implication.
Public, il peut y avoir des échanges aussi. Enfin, en tout cas, là, on peut demander aux élèves. Moi, je demande aux élèves, je leur dis, allez-y, c'est le moment de poser des questions. Si vous êtes d'accord, moi, ils ont une prise de position à prendre. Si vous êtes d'accord avec cette position-là et qu'il n'a pas donné d'argument, bah, essayez de l'aider. Ou si vous êtes un contradicteur, bah, contredisez-le, poussez-le à argumenter. Et ça, ça marche. Hein. Dans une classe, ils se titillent, ils mettent le doigt là où ça fait mal. Et ça, c'est une implication. Si s'ils arrivent et qu'ils ont préparé un truc avec des illustrations, avec des choses pour... Moi, c'était à partir de Google Earth, il y en a qui avaient préparé leur truc, quoi, vraiment. Tu vois qu'ils s'impliquent, par exemple.
Ça me rappelle les travaux de didactique des sciences de la vie et de la Terre, dans lesquels on montrait que les enseignants, ils aimaient bien enseigner ce qui était facilement évaluable, qui donnait lieu à des exercices et qui était intéressant. C'est pour ça que la régulation de la glycémie dans l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre a un très fort succès, parce qu'il y a énormément d'exercices très rigolos à faire à des élèves, et c'est facile. Par contre, pour rejoindre Caroline, nous, on travaille avec des enseignants en projet, effectivement, et des enseignants qui ont bâti une grille d'évaluation. Alors, effectivement, les critères sont intéressants, parce qu'ils ne sont pas forcément des critères qu'on veut forcément sur de connaissances, de concepts, ou choses comme ça, mais l'implication des élèves, de leur participation, du choix des outils, dont qui me semblait effectivement intéressant. Et puis je pense que l'institution nous permet justement maintenant d'avoir ces critères d'évaluation au collège ou au lycée.
Oui, je pense que ça les a passionnés, hein, les élèves, hein, de faire ce genre de choses, parce que ça change tellement de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Non, mais j'en suis convaincu. Moi, je voulais savoir quelle était la part de SVT dans l'approche et dans le travail. C'est-à-dire comment les deux se sont un petit peu ont cohabité et se sont développés l'une l'autre. Parce que si je vous pose cette question, c'est que c'est quelque chose dont j'ai l'impression qu'on ne sait pas très bien faire. C'est pour ça que ça m'intéresse. En
fait, tu peux garder le micro, parce que on enregistre en fait les.
En fait, mon collègue arrive cette année. Il est sur deux établissements. C'est sa première année d'enseignement. L'année dernière, il était stagiaire en lycée. Il a eu beaucoup de mal à s'adapter. C'est vrai que le premier IDD, là, ça a été surtout de la chorégraphie. Lui, il a apporté sa rigueur, lui, il a insisté surtout sur la démarche, problème, hypothèse, conséquences vérifiables, résultats, voilà. On a arrêté cette IDD-là au premier semestre. Là, on en fait un autre qui est beaucoup plus transdisciplinaire, enfin pluridisciplinaire, pluridisciplinaire. On travaille sur la répartition des lichens et puis leur rapport entre les activités humaines, la pollution, etc. C'est beaucoup plus pluridisciplinaire, mais là en fait c'est le contexte qui faisait que c'était un petit peu difficile, mais ça se passe beaucoup mieux, parce que je pense qu'on se rejoint d'une certaine manière dans la démarche. Problème, hypothèse, conséquence vérifiable. Finalement, nous, on le dit peut-être pas de la même manière, mais c'est un peu ce qu'on fait.
Voilà. Pour donner notre expérience ici à l'INRP, puisqu'on travaille dans l'observatoire de manière pluridisciplinaire, géographie et sciences, enfin et géologie, on s'est aperçu que déjà au départ on a des outils qui sont mutualisés. Ça, c'est important d'utiliser les mêmes outils avec les mêmes élèves. Et puis après, du point de vue des démarches, nous ce qu'on a vu, c'est la démarche de modélisation, en fait, où on a une situation problème, et la situation, si on veut la comprendre, c'est une situation complexe, il va falloir la modéliser. Les outils permettent de cette modélisation. Et ensuite, il y aura la confrontation des modèles qui sont élaborés avec le terrain éventuellement. Il y a d'autres aspects, hein, qu'on a vu aussi, c'est que parfois il fallait pas être pluridisciplinaire mais codisciplinaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une question qui est posée, c'est typiquement une question à poser un géographe, quoi. Il y a des concepts de géographe derrière, mais par contre, c'est le géographe qui intervient. Et puis par contre, quand on commence à sortir les lichens, quand il faut les mettre sous la loupe binoculaire, bon, le géographe a pas forcément grand-chose à dire. Et là, c'est peut-être le biologiste qui a des choses à regarder. Et par contre, tout ça participe d'un projet peut-être global et complexe, plus large.
Et on peut quand même aller plus loin, c'est qu'à la fin, on devient très intéressé dans la systématique des lichens, même quand on est géographe, quoi. Enfin, donc je veux dire, après, on s'imprègne l'un l'autre de certaines compétences.
Bah, sur le sujet, on finit par avoir le géographe a un point de vue et le biologiste a un point de vue aussi, qui n'est pas sur le même angle. C'est peut-être ça qui est.
Moi je trouve que c'est plus une interpénétration, pas là sur l'autre travail qu'on fait ensemble, c'est plus une interpénétration, puis on s'apporte mutuellement.
Le point de vue qu'on avait, nous, était un petit peu différent dans le sens où on disait qu'une question n'est jamais purement une question de géologue, purement une question de géographe, mais, ou même de physicien, et qu'à un moment, il fallait qu'une équipe pluridisciplinaire s'y attaque, et donc il fallait aller mobiliser des concepts des différentes disciplines pour le faire. Enfin, je vous renvoie au livre d'Edgar Morin, « Les sept savoirs nécessaires pour l'éducation des futurs », qui, je crois, met bien ça en avant. Hein. Peut-être une dernière question pendant que Caroline s'installe, si vous voulez.